Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Amadou Ba, ravi de vous retrouver pour nos émissions dans le cadre de l'apprentissage un peu sur l'histoire des Afro-descendants, notamment des Afro-Canadiens, des Afro-Américains et des fois aussi sur l'histoire de l'Afrique précoloniale, post-coloniale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une grande personnalité afro-américaine, une des plus grandes figures abolitionnistes du nom de Frederick Douglass. Je vais faire un retour donc sur son parcours, un parcours atypique, essayant de retracer les plus grandes étapes de sa vie, les combats les plus intenses qu'il a menés et puis tout ce qu'il a apporté en termes de contribution dans l'avancement de la cause des Afro-Américains et aux États-Unis, mais aussi dans le monde. Alors, Frederick Douglass reste sans aucun doute l'une des figures afro-américaines véritablement les plus marquantes, en fait, du 19e siècle américain, du 19e siècle, donc, vous savez, aux États-Unis, c'est un siècle très intense, le 19e. Il est engagé dans le militantisme abolitionniste très tôt, dès les années 1840. C'est d'abord un intellectuel, hein, il écrit, il est autobiographe. D'ailleurs, en 1845, il avait été le rédacteur en chef, éditeur de journaux. Il est aussi connu pour être défenseur des droits, à la fois des droits de façon générale, mais aussi des droits des femmes, à l'époque un sujet très peu étudié. C'est aussi un homme politique, mais c'est surtout un grand orateur, brillant. Hein. On a connu les Martin Luther King, de Barack Obama, mais Douglass aussi était un excellent orateur. Il n'a eu de cesse de lutter inlassablement contre l'esclavage, le racisme et toutes sortes de discriminations aux États-Unis. Dans la présente émission, nous allons retracer son parcours atypique au travers des discours, mais aussi des faits marquants qui ont marqué donc sa vie tout au long de sa naissance jusqu'au moment les plus les moments les plus forts de sa jeunesse, mais également de son engagement, finalement jusqu'à sa mort en fait, en 1895, donc vers la fin du 19e siècle. Dans cette émission, je vais d'abord parler de la manière dont Douglass voyait les États-Unis, comment il articulait sa pensée, comment il construisait aussi ses arguments en tant que personne abolitionniste noire pour tenter de les replacer dans un contexte. Donc, je vais essayer de les replacer dans le contexte américain, en fait, de l'époque. Ensuite, il est important aussi de regarder un peu ce qu'était cette Amérique-là, notamment dans la deuxième moitié du 19e siècle, surtout dans le contexte de la guerre civile américaine, qu'on appelle la guerre de sécession, et le rôle que Douglas va jouer hein, pendant ces événements, surtout le rôle qu'il va jouer dans le recrutement des soldats donc afro-américains dans l'armée. D'ailleurs, dans mes émissions passées, j'ai beaucoup parlé aussi de l'engagement des soldats afro-canadiens dans la guerre de 1812, mais aussi dans d'autres guerres canadiennes. Ici aussi, on voit la même chose aux États-Unis, avec Douglas qui demande aux Afro-Américains de s'engager. Le but, finalement, c'est de réussir à acquérir la liberté, la souveraineté, à mettre fin à l'esclavage, en passant par l'armée aussi. Enfin, nous allons également parler de la période de reconstruction, donc après la guerre civile américaine. Maintenant, Douglas va s'attaquer surtout aux questions des droits civiques. On peut encore ailleurs dans le monde, hein, même ici au Canada, par exemple, après la période esclavagiste, quand on regarde les grandes figures que j'ai étudiées ici, à savoir beaucoup de personnalités comme les Anne Richard Curie ou les Harriet Tubman, hein, qui est connu aux États-Unis, mais aussi au Canada, travaille beaucoup sur les droits civiques. Mais aux États-Unis aussi, c'est la même chose. Alors, donc, on va parler de cette partie-là. Et en conclusion, donc, voir le bilan véritablement de sa vie, qu'est-ce que véritablement il a apporté à la communauté. Alors, avant tout aussi, il est important dans une rapide introduction aussi de rappeler quelles étaient les composantes essentielles de son cheminement en fait, pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Il faut noter que Frederick Douglass reste sans aucun doute l'une des figures américaines les plus marquantes des États-Unis du 19e siècle. Comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui est engagé dans le militantisme abolitionniste. Très tôt, il va montrer que l'esclavage n'a pas sa place, que les Noirs doivent vivre libres et égaux comme tous les autres. Il va vraiment le faire par ses idées, par ses écrits, par son engagement, par la politique, etc. Donc c'est véritablement quelqu'un de très engagé. Alors de son vrai nom, hein, si on va essayer de voir sa biographie, il ne s'appelait pas d'abord Douglas, mais son vrai nom c'est Frederick Augustus Washington Bailey. Et il est né en 1818, il est né esclave, parce qu'en 1818, l'esclave battait son plein aux États-Unis. Et il est né dans l'État de Maryland. Cette condition d'esclave, donc, qu'il a connue durant plus de 20 ans, a pris fin quand il a décidé de s'évader. Il décide de partir. En septembre 1848, il fuit vers le nord, comme le faisaient beaucoup, hein. Certains quittaient les États du Sud, allaient pour aller vers le nord. Mais aussi d'autres se retrouvaient au Canada. Et dans mes émissions passées, j'ai parlé du fameux chemin de fer clandestin ou secret du Underground Railroad, où beaucoup de Noirs américains sont venus dans les prairies, sont venus dans les hauts et bas Canada ou dans les maritimes canadiennes en allant chercher la liberté. Donc c'est ça qui va donc lui amener à Philadelphie, puis à New York, où enfin il va s'installer à New Bedford dans le Massachusetts. C'est durant cette même année donc que Frederick Bailey adopte le patronyme de Douglas afin de rendre son éventuelle recherche par des propriétaires du Sud plus difficile. Donc, en changeant d'identité, ça lui permet d'échapper donc aux sudistes qui allaient chercher des esclaves en fuite, hein, qu'ils appelaient à tort des fugitifs, mais que nous on appelle des chercheurs de liberté. Hein. Les Anglais parlent de Freedom Seekers. Le terme fugitif est très mauvais parce que c'est un terme qui fait croire que c'est des criminels qui ont commis des crimes qu'on est en train de chercher, alors qu'ils étaient des esclaves, ils voulaient se libérer et chercher leur liberté. Même les termes qu'on utilise n'étaient pas de bons termes en fait. Donc, dès qu'il fut installé à New Bedford, Douglas rejoint plusieurs associations abolitionnistes regroupant des militants. Ces militants sont multiples. À la fois, il y a des Afro-Américains, des Noirs, il y a aussi des Afro-Européens, des Euro-Américains, donc des Blancs d'origine européenne, des religieux, des non-religieux. Donc, il y a quand même des personnes qui étaient contre l'esclavage et qui vont participer à rendre le mouvement abolitionniste plus fort. Le sujet est d'autant donc plus brûlant que dans les années 1830 à 50, La création de nouveaux États dans l'Ouest provoquait des débats assez houleux entre les États esclavagistes et les États abolitionnistes. Certains États, elles, ne voulaient pas l'esclavage aux États-Unis, d'autres ne voulaient pas la fin. Donc ça, on va voir le point culminant dans les années 1860. Outre sa participation aussi à des meetings, Douglas va s'illustrer aussi dans l'écriture, dans son engagement, notamment en tant que journaliste. Il va s'abonner à un journal qui s'appelle The Liberator, dont il va être le rédacteur en chef. Et là, il va connaître une personne qui s'appelle William Lloyd Garrison, qui aussi est l'une des figures les plus marquantes et engagées de la lutte contre l'esclavage. Alors, Garrison est un Américain d'origine britannique, donc un blanc, qui va aussi œuvrer pour la cause de l'émancipation et la fin de l'esclavage. Donc, il va être vraiment une personnalité importante pour Douglas à cette époque-là. Surtout que aussi, Garrison est un journaliste de journaliste comme il va fonder son journal en 1831 et une année plus tard, il va participer à la création de la première organisation abolitionniste américaine très connue, qui s'intitule l'American Anti-Slavery Society, qui a joué un rôle majeur dans le mouvement abolitionniste. Même aussi beaucoup d'esclaves qui fuyaient le sud, allant vers le nord, ou alors même jusqu'au Canada, ont eu le soutien des associations comme ça, par exemple. Alors, la rencontre donc entre Douglas et Garrison a eu lieu dans ces années-là, fin des années 30, début des années 40, aussi lors d'une réunion annuelle à Bristol. L'Anti-Slavery Society constitue le premier pas d'un engagement résolument militant pour Douglas. Il avait vraiment besoin d'une association comme ça. Et il a trouvé à Garrison la personnalité qui pouvait l'appuyer. Et Garrison, donc, l'a invité. Il était encore très jeune, Douglas. Il avait 23 ans. Et il va prendre pour la première fois la parole à l'occasion d'une réunion annuelle de cette association-là. Et c'était à Nantucket. Et sous la protection et l'encouragement de Garrison, Frederick Douglas, donc, a pris la parole, a osé parler. Et puis, il s'est révélé un très bon orateur, hein, beaucoup de talent. Et le contenu de ses discours, sa prestance, disons aussi son éloquence, a vraiment frappé le public. Les gens étaient très très contents de lui quand il a parlé. Et l'Anti-Slavery Society lui offre donc un poste de conférencier pour une durée de 3 ans. Donc il allait faire des conférences, éveiller les consciences, militer, faire en sorte que les masses soient beaucoup plus sensibilisées sur la question. Il est alors amené à prendre la parole à de multiples reprises afin de raconter lui-même sa vie d'esclave déjà, en tant que quelqu'un qui a vécu cela, mais aussi une vie de quelqu'un qui est considéré comme fugitif, donc ce terme que je n'aime pas, donc en tout cas chercheur de liberté et qui participe à la convention donc, de la Seneca Falls qui marque la naissance du premier mouvement féministe américain, pour lequel aussi il prendra fait et cause durant toute sa vie. Donc il a vraiment milité pour le droit et l'émancipation des femmes. Et très tôt, comme je dis, pendant que cette question n'était pas posée même à fond dans la société américaine, lui, il posait cette question-là. Alors, il va s'illustrer par ses écrits et il va publier en 1845 son premier ouvrage, qui est très connu, qui s'intitule Narrative of the Life of Frederick Douglass. C'est un ouvrage qui raconte sa vie. En fait, c'est son autobiographie, hein. Il va y évoquer sa condition d'esclave, comment il s'est évadé, comment il s'est reconstruit, pourquoi il a décidé de s'engager, etc. Le succès est vraiment considérable et c'est un livre qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de tirages. On parle de 11 000 ouvrages vendus entre 1845 et 1848 aux États-Unis. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, quoi qu'il en soit, donc, Douglas voit contraint de fuir quand même le pays, malgré ça, parce qu'il sait que sa vie, quand même, est risquée un peu aux États-Unis. Il y a beaucoup de violence. Et il décide d'aller en Angleterre, en Grande-Bretagne, pour 2 ans, hein, pour avoir des soutiens à la fois au niveau du gouvernement à Londres, mais également des soutiens, des moyens financiers et stratégiques, etc. Durant ces 2 ans, il affine son éloquence dans de nombreuses conférences, se déroulant principalement donc soit dans des églises, dans le monde associatif ou même dans des universités. Évoquant son ouvrage devant un nouvel auditoire conquis, il noue des relations donc durables et précieuses pour la suite de son action. Douglas obtient tout particulièrement le rachat de sa liberté. À l'époque, il fallait aussi payer, il a eu une somme de 710,96 dollars, disons, grâce donc à des amis anglais qui lui ont donc rencontré lors d'une conférence, qui lui ont aidé à avoir cette somme-là et puis à racheter sa liberté. Ces derniers, donc, après de nombreuses négociations avec l'ancien maître de Douglas, donc mettent ainsi fin à son statut d'esclave fugitif, donc de freedom seeker. Donc il n'est plus maintenant considéré comme quelqu'un qui n'a pas gagné sa liberté de façon officielle. Maintenant il est quelqu'un de libre. Ainsi il rentre aux États-Unis, à son retour en 1847, marque donc un tournant dans sa vie. Il va se détacher résolument donc de Garrison et de certains abolitionnistes donc blancs, parce que Douglas aussi s'installe déjà à Rochester, dans l'État de New York, qui pour lui est un endroit très stratégique, pour sa communauté également. Et il va aussi essayer de voler de ses propres ailes. Il fonde son journal qui s'appelle The North Star, l'étoile nord. Cette cassure entre Douglas donc et Garrison, par exemple, cristallise deux points de vue idéologiques quand même que certains trouvent inconciliables. Douglas s'opposait à Garrison sur la question de savoir si la Constitution fédérale justifie ou non l'esclavage dans son contenu. Donc, ce que Garrison de son côté accorde peu d'importance, ne croyant pas en une résolution politique du problème de l'esclavage. Donc Douglas, lui, souhaitait au contraire que les mouvements abolitionnistes adoptent une voie politique et démontrent que l'institution de l'esclavage était anticonstitutionnelle dans la mesure où rien dans les textes ne la justifiait. Donc ça fait partie des points un peu qu'il a eu avec Douglas. Donc nous allons avancer aussi, hein, parce que c'est un peu long, la vie de Douglas, elle est vraiment intense. En allant dans la période charnière, entre les années 1850 à 1865, et là, c'est véritablement la question de l'abolition de l'esclavage. On rappelle que dans les années 1850, c'est une loi qui a été votée, la Slavery Act, hein, qui permet encore de pratiquer l'esclavage. Donc là, les sudistes ont réussi à convaincre le gouvernement fédéral, et ça crée beaucoup de problèmes aux États-Unis. On peut dire que la distanciation donc radicale avec Garrison et son mouvement donne à Frédéric la possibilité de prendre son indépendance aussi bien sur le plan idéologique qu'organisationnel. Il se sent donc désormais plus sûr de lui à travers son identité, donc d'homme noir, et les plus nombreux meetings auxquels il a participé aussi aux États-Unis et en Grande-Bretagne l'ont rendu prompt à se poser comme porte-parole de la communauté. Il avait besoin de cela, d'avoir une plus autonomie, de prendre ses engagements sans seulement apparaître comme quelqu'un qui est mis en avant par des abolitionnistes blancs, par exemple. Alors, la question de l'esclavage aux États-Unis était vraiment au cœur de ses préoccupations. L'affirmation progressive de Douglas, mais en tant que leader de la communauté noire et abolitionniste convaincue, s'inscrit dans un contexte politique pour le moins tendu aux États-Unis entre 1850 et 1860. Il faut rappeler que le contexte est celui, donc, comme j'ai dit, de la promulgation en 1850 de la loi sur les esclaves qui cherchent la liberté, qu'ils appellent les freedom, les fugitifs. Donc, c'est une loi de 1793 qui garantissait désormais le soutien de l'État fédéral dans la poursuite des esclaves ainsi que la remise en cause du compromis de Missouri qui datait des années 1800, qui était relatif à la mise en place les lignes de démarcation des États esclavagistes et des États non esclavagistes, par exemple. Donc Douglas s'éleva avec force contre cette loi sur les chercheurs de liberté, fugitifs entre guillemets. Il prend sa plume et rédige dans le North Star un article virulent dans lequel il dit, je le cite, « Le seul moyen de rendre caduque la loi sur les esclaves fugitifs, entre guillemets, est de tuer une bonne demi-douzaine de chasseurs d'esclaves. » Fin de citation. Donc, ses propos montrent qu'il opte pour la résistance dure. Alors, il faut aussi noter qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la vie de Douglas aussi, et surtout, il y a eu beaucoup de tensions sur cette affaire de politique nord-sud. Et l'un des éléments les plus importants aussi, c'est une opposition entre les partis Whig, fondés dans les années 1830, qui regroupaient des partisans issus du sud et du nord. Et ce parti va se scinder en deux. Certains donc vont rejoindre rapidement le Parti démocrate et d'autres vont se réformer en nouveau parti. Vers le mois de janvier 1854, les Free Soilers, anciens membres de Whig du Nord, proposaient de former une coalition anti-esclavagiste réunissant toutes les formations abolitionnistes du Nord. Donc, de cette idée donc émergea dans un premier temps de nombreuses coalitions, telles que de fusion ou indépendantes, et il a fallu attendre quelques mois avant que qu'elle ne soit regroupée en une coalition donc qu'on appelle une coalition républicaine, qui devient officiellement donc le parti républicain que nous connaissons aujourd'hui. Cela date du mois de mai 1954. Alors, très vite, Frédéric Douglas adhère aux idées du Parti républicain. Il soutient la candidature du candidat donc républicain du nord de Frémont aux élections de 1856. Il déclare à ce propos, l'élection de Frémont préviendrait l'établissement de l'esclavage au Kansas et mettrait un terme au règne de cette institution dans la République et y opposerait le sceau de la réprobation nationale. Mais au grand désarroi de Douglas et des abolitionnistes du Nord, Frémont perd les élections et le contournement du compromis de 1850 par décret adopté par le Congrès en 1855 donc, va autoriser le Kansas et le Nebraska à instituer l'esclavage par vote populaire. Donc là, Douglas va vraiment être déçu. Il voit que l'esclavage n'est pas encore prêt à partir et puis qu'il est institutionnalisé dans certains États encore. De 1856 à 1860, la stabilité du pays demeure précaire. Mais en 1861, Lincoln, donc, est issu du Parti républicain, achève donc de consommer le conflit et il est élu. Et les États du Sud donc se retirent du Congrès de peur de voir leurs intérêts sur la question des esclaves mis en cause. Donc, on va aller là vers une guerre civile nord-sud qu'on connaît très bien. Qui va durer 5 ans, particulièrement meurtrière, notamment sur le plan humain. On parle de plus de 600 à 650 000 morts. Et c'est une guerre très coûteuse aussi, en hommes, en matériel, etc. Donc c'est vraiment un des aspects les plus terribles de l'histoire américaine. Donc de cette période, Douglas devient un nouveau vecteur de communication et de prise de position de la question de l'esclavage. Son journal le North Star continue donc de publier et Douglas aussi va offrir la possibilité aussi de véhiculer ses opinions politiques et sociales dans ses journaux mais aussi dans d'autres. Il continue son combat et c'est surtout des sujets qu'il privilégie sur la question de l'esclavage mais aussi dans le North Star, il publie des articles sur la fuite des esclaves au Canada. ou sur la question de l'immigration des Noirs en Afrique, ainsi que sur la cause féministe. Donc, ces trois sujets reviennent, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de réseaux qui faisaient venir des esclaves des États-Unis au Canada. Il y avait aussi un débat, est-ce qu'il fallait ramener les esclaves en Afrique? C'est dans ce sens qu'on a ramené certains en Sierra Leone, par exemple, en 1846, donc, ou le Libéria. Sierra Leone, un peu avant, et au Libéria, c'est là où on a ramené beaucoup d'esclaves noirs. C'est en premier donc, lieu par le biais de ces hebdomadaires que Douglas donc, va forger et affirmer ses convictions sur la question de l'esclavage. Dans ses nombreux articles aussi, il pose les bases de sa stratégie qui vise à s'appuyer sur une interprétation anti-esclavagiste de la Constitution, tout en rappelant les valeurs fondamentales de la liberté et d'égalité qui y sont inscrites. Donc, Douglas essaie de mettre les Américains face à leurs responsabilités, comprenant que le pays ne peut pas être un pays de liberté, de justice, d'égalité si une bonne partie de la population est opprimée et vit l'esclavage. Et il va vraiment ironiser et même stigmatiser donc la fête du 4 juillet pour lui qui n'a aucun sens parce que l'esclavage est là. Il va véritablement faire une allocution retentissante à l'occasion de la fête, par exemple, nationale du 4 juillet, afin de résumer l'ensemble de sa pensée dans des potions sur cette fête-là. Et il va dire quelque chose de très important dans une citation. L'objet de cette de célébration est donc le 4 juillet, jour anniversaire de votre indépendance. Il ne dit pas notre indépendance, mais votre indépendance nationale et de votre liberté politique. C'est pour vous l'occasion de vous rappeler le jour de l'acte de votre grande délivrance, ainsi que les signes et merveilles associés à ce jour. Donc là, en disant votre, il montre l'exclusion de la population afro-américaine à cause que cette population-là vit l'esclavage et n'est pas considérée du tout. Durant tout son discours, donc, Douglas souhaite aussi souligner que le statut d'esclave prive les Noirs de toute citoyenneté et par conséquent de toute participation à la vie politique et sociale. Prolongeant son discours, il déclare, je cite, Je le dis avec la tristesse, conscience de ce qui nous sépare. Je ne veux pas être intégré à ce glorieux anniversaire. La hauteur de votre indépendance ne fait que révéler la distance incommensurable qui nous sépare. Fin de citation. La suite de son discours s'attache à brosser un tableau de ces années d'esclavage et de la condition des esclaves actuels. Donc, il fustige les propriétaires d'esclaves aussi bien que le gouvernement fédéral américain. Douglas rappelle que ce sont les Noirs qui labourent, qui construisent les maisons, les ponts, les routes. Enfin, c'est eux qui tiennent l'économie du pays en réalité. Après avoir construit l'économie américaine sur l'esclavage, parce que quand même les États-Unis sont bâtis sur l'esclavage des Noirs, ça c'est clair. Et il fait comprendre également que c'est seulement ce système-là qui continue. Et il le combat par les idées également. S'alliant avec panache, donc à cette époque-là, nous sommes à une période où l'esclavage est déjà aboli dans l'Empire colonial britannique. On se rappelle que en 1833, l'Angleterre, l'Empire colonial britannique, ont aboli l'esclavage. Donc des pays comme le Canada, l'Australie, tout ce qui est dans cette région-là, étant ce giron britannique, il n'y a pas d'esclavage. Mais aussi la France, l'Empire colonial français, l'avait aboli en 1848. Mais les États-Unis continuaient. Donc lui, il stigmatise les États-Unis dans leur volonté de maintenir cette institution rétrograde moyenâgeuse. Il conclut la partie consacrée à l'esclavage en répondant à la question induite par le titre de son discours. Il dit, que représente pour l'esclavage américain votre 4 juillet? Voici ma réponse. Un jour qui lui montre, plus que tout autre de l'année, l'injustice flagrante et la cruauté dont il est en permanence victime. Pour lui, votre célébration est une imposture, la liberté dont vous vous targuez, une licence impie. Votre grandeur nationale, la boursouflure de la vanité. Fin de citation. Donc, on voit véritablement que Douglas s'attache au fondement même de la société américaine. Donc, si la première partie de son discours est consacrée à la question de l'esclavage et de sa situation, Douglas aborde dans ce même discours sur la Constitution américaine. Il dénonce l'idée faussement soutenue dans le Sud que la Constitution rend légitime dans son texte l'esclavage. Il déclare, permettez-moi de vous demander s'il n'est pas quelque peu singulier que la Constitution le comporte, ou que ce soit les mots ni esclaves, ni détention d'esclaves, etc. On retrouve donc ici l'un des chevaux de bataille de Douglas, l'un des arguments forts de son opposition à l'esclavage. Ce sont les éléments politiques récents, tels que la modification de la loi, donc sur, comme j'avais expliqué, sur les fugitifs de 1850, ou le compromis, qui ont donc amené Douglas à aborder de front donc le caractère anticonstitutionnel de l'esclavage. Et il montre également le fondement illégal de l'esclavage dans le Sud. Il nous faut aussi souligner ici les attaques récurrentes de Douglas à l'encontre également de l'Église. Hein. Il s'attaque à l'Église. Pour lui, l'Église ne joue pas son rôle et l'Église est complice. Il accuse l'Église de prendre tacitement fait et cause pour l'oppresseur. Hein. Douglas souligne que l'Église est devenue le rempart de l'esclavage américain. Nombre de ces théologiens les plus éloquents, tenus par la lumière même de l'Église, ont accordé sans vergogne la sanction de la religion et de la Bible à tout le système de l'esclavage. Cette partie du discours est capitale pour bien comprendre l'ensemble de sa pensée. Certes, sa stratégie consiste essentiellement à condamner l'esclavage, tant sur le plan humain que politique, mais son argumentation prend dans le cas présent une signification plus universelle. Douglas exprime aussi l'idée d'une communauté humaine construite à l'image de Dieu que les hommes, donc principalement les théologiens qu'il cite, ont catégorisé et séparé de leur propre vie. Donc, pour lui, ces théologiens-là ne croient pas en Dieu en réalité, s'ils ne sont pas capables de critiquer, de dénoncer l'esclavage, et encore pire, s'ils cautionnent l'esclavage. Le racisme et à plus forte raison aussi, donc l'esclavage sont des institutions humaines et ne peuvent trouver leur justification dans la Bible, note-t-il. C'est ici un des traits donc de caractère de Douglas qui se posait volontiers contre comme le messie de la communauté afro-américaine. Ce discours restitue aussi parfaitement l'ensemble de la pensée de Douglas. Les arguments qu'il emploie pour dénoncer l'esclavage se trouvent formulés tout au long de son allocution avec une très grande clarté. Et on voit donc que Douglas, tout ce qui touche à l'esclavage, les causes, tout ce qui permet à l'esclavage de prospérer, il le met dans la critique. L'autre partie importante de son combat aussi, c'est durant la guerre civile américaine 1861-1865, il voulait aussi l'intégration des Noirs dans l'armée et la proclamation de l'émancipation. Donc pour lui, l'armée était le moyen pour les Noirs de s'émanciper, de prouver qu'ils sont américains et de ne plus être considérés comme esclaves. Donc Douglas avait ardemment donc soutenu la candidature de Lincoln en 1860, espérant qu'une victoire républicaine devait être et sera saluée comme un triomphe anti-esclavagiste. Donc bien qu'il ait salué son élection, un an plus tard, il commence à reprocher à Lincoln son manque de pragmatisme hein, durant la première année du conflit et de ne pas assez prendre compte la question de l'esclavage, par exemple. Donc de fait, Lincoln définit le conflit contre les États sécessionnistes du point de vue strictement politique. Considérant l'acte de scission des États du Sud sous l'angle de la rébellion, Lincoln souhaitait avant tout rétablir l'union du pays, fût-il par la force. Et lors de son allocution en mai 1861 sur les buts de la guerre, il confirme bien la portée politique de son engagement dans le conflit au détriment de la question de l'esclavage. Lincoln souligne qu'il n'a aucune intention directe ou indirecte de toucher à l'esclavage dans les États où il existait. Fin de citation. Thank you. L'évolution du conflit entre 61 et 62 et les pertes humaines considérables vont obliger donc Lincoln à reconsidérer les demandes incessantes de Douglas sur la création des troupes afro-américaines qu'ils appellent là-bas les colored people, hein, les troupes de couleur. C'est ainsi que, depuis le début du conflit, donc, Douglas avait mené une campagne dans tout le Nord en faveur de la levée des régiments des soldats noirs pour s'engager. Là également, on le retrouve dans les armées, à la fois l'Empire colonial britannique mais française, qu'à la fin de l'esclavage, beaucoup de soldats vont essayer, noirs vont aller dans les armées pour diverses raisons que nous avons expliquées suffisamment dans notre livre, L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada, 1604-1945. Plusieurs arguments venaient étayer donc ces propos. L'un des plus importants est sans doute la volonté d'offrir aussi bien aux Américains d'origine européenne, donc qu'on appelle les Blancs, qu'aux Noirs, une image nouvelle des Noirs. Celle d'un homme servant son pays avec la loyauté, abnégation et par là même aussi l'intégrer activement dans la nation. L'idée sous-jacente de Douglas était ici d'illustrer dans l'immédiat l'armée comme le vecteur d'intégration sociale dans le prolongement et de s'appuyer sur l'expérience et les services rendus par les troupes afro-américaines pour justifier une citoyenneté pleine et entière dans la communauté. Donc, le fait de passer par l'armée serait vraiment une façon de retrouver la liberté et la pleine citoyenneté. Il note à ce titre, dans l'un de ses articles du North Star, Paris en 1862, que le noir parvient seulement à porter sur sa personne les lettres de cuivre US, qu'il arrive à mettre un aigle sur ses boutons, un fusil sur son épaule et une balle dans sa poche, et aucun pouvoir au monde ne pourra plus nier qu'il a gagné le droit de devenir citoyen. Fin de citation. Donc, parallèlement à cela, Douglas tente maintes reprises de convaincre Abraham Lincoln d'émanciper les esclaves indépendamment de la question des troupes. Donc, il a pensé aussi à toutes ces populations qui ne peuvent pas être soldats, mais qui ont besoin d'être libérés. Donc, il évoque cette question-là également avec Abraham Lincoln. Il argue qu'une proclamation d'émancipation prolongerait le Sud dans une situation militaire et économique catastrophique en lui retirant une grande partie de sa main-d'œuvre servile. Le premier souhait de Douglas sur l'intégration des Noirs dans l'armée est exaucé dès 1863 avec la création du 54e régiment des couleurs de Massachusetts. Hein. Donc, ils vont l'écouter et il va y avoir un corps de Noirs soldats. Moins d'un an plus tard, les troupes fédérales comptent donc plus de 20 000 soldats noirs qui sont au combat. Toutefois, l'ensemble de ces régiments furent bien souvent employés aux travaux de terrassement, au comblement des tranchées ou à l'assèchement des marais et à la rénovation des troupes pour un salaire inférieur à celui des soldats blancs. Donc là également, c'est un aspect qu'on retrouve à la fois dans l'histoire canadienne, le fait d'utiliser les soldats noirs comme des transporteurs, refuser de leur donner les armes. Ça, on l'a vu, hein, à tel point que même au Canada, le corps militaire afro-canadien le plus connu, c'est le 2e bataillon. Et on oublie tous ces soldats qui ont fait la guerre de 1812, par exemple. Le rôle d'auxiliaire joué par ces troupes amena Douglas à rencontrer Lincoln en août de la même année afin de lui demander la cessation des mesures discriminatoires à l'encontre des soldats afro-américains et leur engagement sur le théâtre des opérations. Donc ça aussi c'est très important, il mène ce combat-là. Et dès 1864, les troupes afro-américaines sont activement engagées dans plus de 200 batailles. Et les salaires sont alignés sur ceux des Blancs. Et là, ça va voir tous les résultats que ça va produire et l'influence que ça va apporter à la suite des événements. Les pertes des troupes afro-américaines aussi sont importantes. Elles s'élèvent à plus de 20% sur les quelques 200 000 volontaires ayant servi durant le conflit. La proclamation d'émancipation de Lincoln en janvier 63 rejoint en partie le second vote de Douglas, puisqu'elle a franchi donc les Noirs de l'esclavage. Donc, une fois que cette participation est réelle, maintenant qu'on voit que les Noirs sont des citoyens américains, là, Lincoln va prendre la question au sérieux et l'esclavage va être aboli aux États-Unis. Bien qu'appliqué principalement dans le Sud durant la guerre, donc la proclamation sera progressivement instaurée dans tout le pays entre 1865 et 68. Elle constitue pour Douglas la plus grande victoire des abolitionnistes du Nord. Elle ouvre la voie à une intégration complète de la communauté afro-américaine dans la société américaine, si souvent évoquée et ardemment souhaitée donc par Douglas. On voit donc vraiment toute cette importance que Douglas a jouée dans le fait qu'il a poussé aussi Lincoln à accepter les Noirs dans les armées américaines. Mais la fin de la guerre de sécession en 1865 et la période de reconstruction qui va s'ouvrir n'a pas aussi et va pas être une période de repos hein, pour Douglas, parce qu'on sait qu'après l'esclavage, la période qui va suivre, c'est vraiment encore beaucoup de violence, du racisme, des violences perpétrées dans le sud par les Ku Klux Klan et l'instauration des lois progressives ségrégationnistes avec l'accord tacite du gouvernement fédéral. Donc pour Douglas encore, ça c'est vraiment terrible. Il va continuer à mener ce combat-là pour l'égalité. Là, c'est vraiment la période de la reconstruction et la question vraiment des droits civiques. Et même si l'esclavage est fini, pour lui, il y a énormément de choses à faire. Et la période donc qui va suivre la guerre de sécession voit le retour sous certaines conditions vraiment des États sécessionnistes dans le giron de l'Union. Et on va voir, il y a beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, l'assassinat de Lincoln le 15 avril 65 n'augure pas hein, beaucoup de choses. Hein. Et puis, l'investiture de Buchanan hein, à la présidence, après la mort de Lincoln, suivie aussi celle de l'ancien général des armées, Ulysses Grant, va marquer la période de la reconstruction. Et c'est cette période-là où vraiment il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. La liberté nouvellement acquise des Noirs provoque une réaction vraiment violente dans le sud, qui voit émerger des organisations terroristes qui sèment la terreur chez les Noirs, des organisations comme la Camélia ou le Ku Klux Klan dont nous avons parlé. Dans un discours prononcé en 1866 sur la question de la reconstruction et des buts à atteindre, Douglas évoque vraiment ces massacres perpétrés sous le yeux des soldats fédéraux, qu'il accuse d'être complice des massacres des populations afro-américaines. Il encourage le gouvernement à ne pas céder face aux pressions des politiques du Sud sur la question des droits civiques des Afro-Américains et il souligne l'importance de l'ascendant grandissant que doit prendre le gouvernement fédéral sur les États-Unis. Seule manière, selon Douglas, de contenir les velléités des anciens esclavagistes et de garantir une intégration équitable des Noirs. Il était aussi sensible véritablement à cette question de la reconstruction et de voir les États-Unis aller beaucoup plus vite qu'il ne le constatait. Alors, Frédéric Douglas donc, va accentuer sa lutte pour les droits civiques. Parallèlement aux événements sur la question des droits civiques qui occupe une place prédominante entre 1870 et 1877, on sait que les républicains aussi sont les plus radicaux qui exigent dès 66 que soit promulgué le droit de vote pour les Noirs qui ferait d'eux des citoyens à part entière. C'était vraiment pas ce qui était vu dans le Sud. Et Douglas s'engage aux côtés donc des républicains qu'il appuie et il prononce deux discours au Congrès dans ce sens. Le premier en 1866 et il aborde la question de la reconstruction, prenant fait et cause pour une réintégration des États du Sud. Douglas souligne l'importance pour le gouvernement fédéral de poser des conditions de politique sociale dont elle retourne. La proclamation d'émancipation doit constituer, selon Douglas, un tremplin pour l'avenir des Noirs et être concrétisée par une pleine jouissance des droits civiques des Afro-Américains. En outre, les dangers donc suscités par les violences dans le Sud doivent également être condamnés par le gouvernement fédéral, selon Douglas. Ensuite arrive le 14e amendement qui sera, malgré les tensions, ratifié en 1868. Il garantit la pleine citoyenneté pour tout individu né ou naturalisé aux États-Unis. Ce nouvel acquis encourage Douglas à poursuivre donc son combat pour les droits civiques. Ayant donc désormais, accent désormais sa lutte sur la question du droit de vote, Douglas prononce le 19 janvier 1867 un second discours également, toujours dans le cadre de ces droits-là. Il affirme, il y a plusieurs citations qu'on lui attribue à cette époque. Une des plus importantes, il dit, nous avons jusqu'à présent seulement acquis l'union sans l'unité, le mariage sans l'amour, par exemple. Donc ça, c'est parmi ces citations. Il conclut aussi en disant, L'adoption du Civil Rights Act qui donne le droit aux Noirs accès à tous les lieux publics sans tenir compte de l'ancienne condition de la servitude. Cette période donc de militantisme de 65 à 70 constitue pour Douglas une période de cap franchi. La ratification des amendements donne aux Noirs une reconnaissance plus grande au sein de la société. Les apports permettent de considérer l'avenir sous de meilleurs auspices, mais ne donnent pas entièrement satisfaction à Douglas qui perçoit dans les années 1870-1880 une nouvelle forme d'esclavage. En effet, la signature du compromis de Missouri de 1877 marque la fin de la période de reconstruction et le retour au pouvoir des Bourbons. Très vite, les États du Sud instaurent une série de lois, des lois très célèbres, très connues, qu'on appelle les lois Jim Crow, où il y a aussi des codes noirs visant à séparer les Noirs des Blancs dans les espaces publics. Hein, c'est les fameuses lois dans les bus, dans les places publiques, les toilettes, etc., qui ont continué pratiquement jusque à la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans certains États américains. Alors, il va finir son militantisme dans une certaine amertume quand même, entre 1877 et 1895. Et dans ce moment-là, Douglas donc, a connu un parcours de militant qui peut se scinder grossièrement en deux parties. La première, qui s'étale on peut dire, de 1850 à 65, constitue une période résolument axée sur la question de l'esclavage, mais aussi à partir donc de la fin de la guerre civile, c'est vraiment les droits civiques. Les événements de 61 à 65 ont donné à Douglas l'opportunité de plaider en faveur de l'émancipation des esclaves en s'appuyant sur la participation des troupes afro-canadiennes, donc on appelle les troupes de couleur. L'apport de la guerre avec la proclamation d'émancipation donne un second souffle à sa lutte et atteint son apogée avec la ratification des amendements. De 77 à 95, Douglas n'aura de cesse d'alerter le gouvernement fédéral sur le retour d'une forme d'esclavage, mais aussi de la terreur et de l'intimidation. Et entre 79 et 81, il s'opposera à l'immigration en masse des Noirs vers le Nord et surtout aussi vers le Canada, en préférant privilégier l'intégration des Noirs aux États-Unis même, sans qu'ils partent ailleurs. Mais les violences engendrées dans le Sud, comme les lynchages, vont très tôt amené Douglas à reconsidérer sa position. Alors, la fin de la vie de Douglas est jalonnée par diverses promotions quand même. Il va occuper entre 1881 et 1882 le poste de greffier pour le district de Columbia et il est nommé entre 1889 et 1891 ministre à Haïti, un poste dont il va d'ailleurs démissionner suite à la politique d'occupation de Mall Saint-Nicolas par les États-Unis. Donc lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il va rendre sa démission. Il prononce en 1894 son dernier discours intitulé « The Lesson of the Hour », donc sur la pratique de plus en plus fréquente de l'insas. Donc vraiment, il va mourir dans cette période où l'Amérique est vraiment à la recherche. Et vraiment, il y a les démons qui sont là et beaucoup de l'insas, des Noirs qu'on tue en plein jour devant les forces armées fédérales qui ne disent rien. Et là, Douglas s'éteint en février 1895 dans sa propriété de Cheddar Hill et il est enterré à Rochester, donc à côté de New York. Voilà donc sa vie d'esclave à homme libre. On peut dire que Frederick Douglas a su s'élever par son éloquence, à son engagement permanent au rang d'écrivain, journaliste, orateur et politicien de renom, qui marqua de son empreinte les États-Unis de la seconde moitié du 19e siècle. C'est vraiment une grande personnalité que nous ne devons pas oublier, qui a consacré toute sa vie à la dignité, à la justice des Afro-Américains, donc des Noirs, que ce soit du continent ou pas. Et des grandes personnalités comme ça doivent être connues, enseignées, et nous ne devons pas l'oublier. Parce que si aujourd'hui nous avons acquis la liberté, même si c'est une liberté encore qui n'est pas totale, c'est quand même à cause des grandes personnalités comme Douglas qui ont sacrifié leur vie et qui ont consacré toute leur énergie pour que ça puisse arriver. Donc pour cela, nous ne devons pas oublier et il mérite de faire l'objet donc, dans nos émissions, et dans nos cours et tout ce que nous faisons quand nous parlons des grandes personnalités noirs d'Afrique ou de sa diaspora. Alors, il y a beaucoup de livres hein, qui sont consacrés à lui. Si on veut vraiment faire la recherche sur Douglas, il y a beaucoup de livres en anglais, mais aussi il y en a en français. J'en ai consulté quelques-uns, par exemple, de Claiborne Carson et Nash Gorry, The Struggle for Freedom, A History of African American. Donc ça, c'est un livre de Paris en 2007, qui est un bon livre, qui raconte son histoire. Mais aussi, il y a Frédéric Douglas, hein, qui avait écrit hein, aussi, David Henry Thoreau, De l'esclavage en Amérique. Hein. Il retrace cette publication. Il y a James McPherson, La guerre de sécession, 1861-1865. August Meyer et Léon Litvak, Black Leaders of the 19th Century. Ça, c'est aussi un bon livre, publié en 1991. Vous avez John Stoffer, The Black Heart of Man, Radical Abolitionist and the Transformation of Race. Livre Paris en 2002. Frederick Douglass, A Voice of Freedom in the 1800. Un livre de Camilla J. Wilson. Il y a beaucoup d'autres livres qu'on peut trouver sur lui-même aussi, sur des sites hein, spécialisés comme des sites afro-américains, afro-descendants. Ou même des livres en ligne hein, ou qui parlent beaucoup de Frederick Douglass. Donc, si on veut vraiment chercher des informations sur lui, c'est tout à fait possible de trouver énormément de choses. Voilà, je voulais vous présenter donc aujourd'hui ce grand monsieur de la communauté afro-américaine, cette grande personnalité noire qui a œuvré toute sa vie pour la liberté et la dignité, à lutter contre l'esclavage, à lutter contre l'injustice, les discriminations, le racisme pour une Amérique égale, une Amérique prospère, pour que des Noirs soient considérés comme des citoyens à part entière et non entièrement à part. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir. C'était Amadouba. Merci.